Audiobook par Marc Boilard, comment rendre les autres meilleurs et soi-même au passage. On est quelque part en 2005. Je viens de sortir de testostérone depuis à peu près un an. Je suis pas encore à Love Story. Donc, je vais vous faire une mise en situation parce que ça a rapport avec le thème de l'audiobook d'aujourd'hui. Guy Laforce, qui à l'époque est mon producteur, parce que je suis en spectacle, à la sortie de « Moi, si j'étais une fille », un livre que vous retrouvez dans mon Patreon sur demande, donc quand vous, puis que je vais lire aussi, probablement dans le temps des fêtes. Et puis, ça vient avec une conférence, spectacle, si on veut. C'est un show d'humour, dans le fond, mais sous format conférence, tiré du livre. C'est les 7 erreurs que les filles font quand elles rencontrent un gars. Et puis, Guy Laforce reçoit un coup de téléphone parce qu'on est chez Spectra. Moi, Mike Ward et François Massicotte, donc 3 des 4 de testostérone, on est en représentation puis en projet de show chez Spectra, avec Jacques-André Dupont, qui a fini par être président de Spectra, qui est rendu à CE2 Montréal. Et il y a un téléphone qui rentre de Sylvie Roberge, qui est la directrice des programmes. Elle arrive de Trois-Rivières Énergie, puis est rendue la directrice des programmes à Québec avec Daniel Tremblay, qui est le directeur général. Lui est toujours là, encore. Et elle appelle parce qu'elle dit « J'aimerais ça avoir un segment d'une demi-heure le matin, quelque part entre 7h30 et 8h30, avec Martin Dallaire et Catherine Emmanuel, La Liberté. » Puis on verrait Mike là-dedans. Puis Guy lui dit, écoute, je peux y en parler, mais Mike, c'est pas un gars de matin, c'est pas un gars de radio. Et il me propose, il fait, moi, je te conseille plutôt Marc Boilard. Fait que là, comme ça arrive souvent, comprends-tu, oh non, lui, blablabla, venons dîner avec. Parfait. Je me rends au Capitole, je fais le détour pour l'occasion, parce que contrairement à l'opinion de fois de certains, vu que j'ai fait beaucoup et fait encore la radio à Québec, j'ai jamais habité à Québec. Même l'année avec Éric Duhaime, je n'étais pas à Québec full-time. J'avais encore mon condo ici, que je louais. Et puis voilà. Donc, je vais dîner avec Sylvie Roberge. Et ça dure à peu près une heure. C'est fort sympathique. Et à la sortie de ça, elle appelle Guy. Puis elle dit qu'effectivement, ce serait une bonne idée puis qu'on pourrait avoir un contrat pour l'automne. Donc, j'embarque à partir d'une petite boîte comme je travaille actuellement, mais on n'avait pas de caméra dans le temps. Et puis, ça passait par la ligne téléphonique, ça passait pas par Internet. J'embarque avec eux autres aux alentours de fin août 2004-5. C'est pas clair encore. Et, parallèlement à ça, à la première de Martin Petit, de son premier spectacle au Jésus, il y a un gars qui s'appelle Robert Montour, producteur aujourd'hui très connu à Montréal pour Sphère Média, entre autres, puis That's It, qui vient me voir, il me voit à l'entrée, qui me donne sa carte. Il dit, je suis le nouveau producteur de Love Story. Il dit, j'aimerais ça te parler, j'aurais de quoi pour toi. Et je deviens panéliste le dimanche avec 4 autres personnes. Puis on fait des commentaires, etc. Bon. Puis on est à Love Story. Donc, évidemment, ma notoriété, qui était déjà très bonne à cause de testostérone, ben, elle continue de grimper à coups d'un million par jour le dimanche dans le public cible d'énergie. Alors ça, plus des interventions qui étaient quand même assez percutantes à chaque matin, du lundi au vendredi, de 8h à 8h30, qui n'étaient pas du talk radio. Donc, de 8h à 8h30, j'avais 2 fois 4-5 minutes, hein? J'avais pas. C'était pas 30 minutes là, non-stop comme j'ai avec Sylvain ou qu'on fait en radio parler. Là. Et ça va super bien. Et on m'offre de continuer pour toute l'année d'après dans le même format. Puis moi, je négocie même du lundi au jeudi. Et c'était fantastique. L'été d'après, c'est moi qui ai animé le matin. C'était le 400e de Québec, si je me souviens bien. Il y avait des shows, genre, il y avait des shows. C'est pas compliqué, il y en avait 12 par soir. Ça... C'était furieux. C'était une magnifique expérience. J'avais un petit appart qui était inclus là-dedans, dans le Vieux-Québec, juste à côté du bistrot. Ça fait que ça a été vraiment, vraiment génial. Pourquoi cette intro-là? Parce que Sylvie Roberge m'appelait après chaque segment, chose qui n'existe pas du tout dans la culture radio-parlée. Les boss donnent à peu près aucun suivi de rien. Aux animateurs, tu sais, quand j'ai un poste d'animateur ou de co-animateur, c'est plus fréquent. Mais un chroniqueur, c'est comme, il est là parce qu'on trouve qu'il fait bien la job, puis on s'en occupe pas, on donne pas de feedback ni rien. C'est correct, là, tu sais, je veux dire, c'est pas que je m'en plains, mais à l'époque, Sylvie, qui venait d'arriver puis qui voulait vraiment que ça clenche, m'appelait tous les matins. À 9h, j'avais un appel, tout le temps. Elle m'écoutait religieusement, puis elle avait toujours d'excellents conseils. Elle était très, très bonne. Et l'antenne allait très bien, d'ailleurs. Tellement que, lors du deuxième sondage que j'ai eu, je suis devenu le quart d'heure le plus écouté à Québec. 33 000 au quart d'heure à 8 heures, qui était plus fort que Gilles Parent, qui était plus fort que tous les autres. Ça fait que le segment le plus populaire à Québec, c'était Marc Boilard, qui, grosso modo, parlait de relations à côté. Je racontais ce que la fille avec qui je vais jaser la veille ou whatever, on était tout le temps dans ces propos-là. Ça fait que là, on se pognait, moi puis Catherine, on était devenus très chum, elle avait animé avec moi l'été après. C'était très bon. Et Sylvie Roberge, donc, la bosse, me dit la chose suivante. Donc, c'est pas de tout temps qu'on porte ça à mon attention et que moi-même, je l'ai réalisé. Elle me dit, à un moment donné, elle dit, quand t'arrives en studio, tu rends tout le monde meilleur. Ah bon? Pourquoi? Elle dit, ben, parce que le monde se rend compte où est-ce qu'on peut aller. C'est comme ils t'écoutent puis ils se disent, ah ouais, on peut dire ça. Puis j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme commentaire. Puis je placerai ça avec un autre commentaire de France Lauzière, qui aujourd'hui est rendue la grande boss de TVA, donc la directrice de la programmation VP TVA, c'est France Lauzière. France Lauzière, c'était l'adjointe de François Rozon, puis tranquillement, pas vite, elle avait commencé à s'occuper de faire des shows, produire les shows, etc. Puis moi, ben le premier spectacle, les deux premiers shows des humoristes à qui je travaillais, soit Anthony Cavanagh puis Jean-Michel Antier, on les avait fait France et moi. C'était une coprod, c'est-à-dire... Je m'impliquais dans tout, mais dans la vraie vie, c'était Rozon qui finançait, c'était pas moi ni l'humoriste. Mais c'était une coprod, dans le sens que, tu sais, on séparait 50-50, les frais de prod, etc. Puis c'était un contrat, là. Si ça vous intéresse, un jour, je pourrais vous parler comment ça fonctionne. Et France, elle m'a donné à quitter pour devenir l'adjointe de Sophie Pellerin, qui était la directrice des programmes à TVA. Puis elle a fait son petit bout de chemin, puis depuis déjà quelques années, c'est la grande, grande boss. Et France, un jour, m'avait dit... Quand j'étais gérant, justement, puis qu'on travaillait ensemble, elle dit, je peux pas la faire, ta job. Elle dit, moi, je peux pas, et c'est un autre point important dans ce que j'ai à vous dire, elle dit, moi, je peux pas me coucher le soir puis me dire, il y a quelqu'un qui se dit, mon gérant s'en occupe, ma carrière va bien aller. Elle dit, je peux pas vivre avec ça, moi. Puis elle avait raison, parce que c'est exactement ce que les gars se disaient. Marc va arranger ça, Marc, voici, Marc... Puis moi, c'est de la pression qui me changeait rien à rien, tu sais. Rien à rien. Il a fallu qu'on me le dise pour que je le réalise. Et tout ça a rapport parce que c'est des phrases qui rendent les autres meilleurs. Quand tu te fais dire ça, tout à coup, tu t'améliores parce que tu cristallises quelque chose que tu n'étais même pas au courant. Puis ça, c'est un des premiers points que je vous parle aujourd'hui. C'est faire des compliments sur ce que vous trouvez que les gens font de bien. C'est extrêmement puissant. C'est pas juste pour faire plaisir. Ça a aussi cette vertu-là qu'au final... ça nous fait réaliser des affaires que des fois, parce que ce dans quoi on est très très bon, on s'en rend pas compte. On se rend compte ce dans quoi on est très très mauvais. T'sais, moi, à l'époque, juste pour rire, j'ai fait quasiment une dépression, j'ai donné les clés de toute ma compagnie, puis en braillant, puis tout, je me suis sauvé pendant un mois. Pas sauvé sans le dire, j'ai averti tout le monde, mais t'sais, vraiment parti, je me suis dit j'ai besoin d'un break. Puis quand je suis revenu, il n'y avait rien de changé parce que je faisais juste me sauver. Moi, j'étais très fuyard dans mes relations, tout le temps. Ça fait que c'est une phrase de mon père, un moment donné, qui m'a dit « T'as-tu un contrat avec Rozon? » Puis, tu sais, ça allait pas. J'ai dit « Oui, ben il dit « Signe, puis va de l'avant. » Puis cette phrase-là m'a parlé épouvantable. Puis je vous l'ai dit parce que je sais qu'elle va parler à certains qui m'écoutent. Il y en a, je suis certain, qui actuellement sont bloqués ou ils vivent des stress, des angoisses, whatever. La phrase « Va de l'avant », là, c'est épouvantable comment c'est puissant. Moi, ça a changé ma vie. J'ai arrêté de me sauver, puis j'ai réglé les affaires. Je suis passé d'un gars quasiment en faillite. 6 mois après, j'ai acheté un condo. Ça fait qu'à un moment donné, il s'est passé de quoi, hein? Ça fait que je vous raconte tout ça parce que ça a été porté à mon attention, puis vous pouvez faire la même chose. Puis j'ai réalisé que quand tu rends les autres meilleurs, tu te rends toi-même extrêmement meilleur. C'est le fameux quand tu présentes ou t'expliques des devoirs à quelqu'un quand tu es au secondaire, puis que tu montes en maths à quelqu'un qui n'est pas bon en maths, ce qui était mon cas. Bien, pendant que tu expliques comment faire une équation, puis comment tu expliques une intégrale, puis comment tu expliques... Je prends le sujet des maths parce que j'ai toujours été extrêmement poche. Toute ma famille, on est très fort en français, zéro en maths. Et habituellement, c'est des bases communicantes. Ben voilà, quand tu le montres à quelqu'un, tu l'apprends. Tu cristallises ton savoir. Ben c'est toute l'attitude qui est de même, je réalise. C'est bourré de livres, c'est bourré de conférences, puis de coachs qui nous disent comment s'améliorer, comment être meilleur, puis comment être fin. Personne ne parle du sujet que je vous dis aujourd'hui. Personne. Rendre les autres meilleurs, c'est comme si... voyons, pourquoi? Ben non, non, non. C'est ça hyper rapport, puis c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui en long et en large. J'ai 5 points, littéralement, qui permettent ça. Le premier, comme je vous dis, là, c'est vraiment, je vous dirais même, c'est un point bonus, là. C'est celui de l'intro, c'est-à-dire que quand vous faites des compliments aux gens, sans calculer, sans vous dire « est-ce que je donne un compliment, puis ça m'en prend un en retour », quand vous faites des compliments, vous révélez aux gens des choses que peut-être qu'ils ignorent totalement. Tu sais, à un moment donné, cet été, je suis allé chez Dumpack, puis je me suis engueulé avec... engueulé, je veux dire, on s'est pas engueulé comme si c'était une chicane sérieuse, là, mais tu sais, on a argumenté sur un point. Il y avait une fille qui était là, qui était avec Dom, c'était son invité, on était chez lui. Puis là, elle me disait, ah, mon père, il est baleine, puis telle affaire. Puis là, j'ai là, qu'est-ce qu'il connaît ton père dans les baleines, puis telle affaire? Dans la vraie vie, il connaissait ça au bout. Mais tu sais, c'était comme un peu weird, c'était l'affaire de la baleine qui s'était perdue dans le fleuve. Puis là, ben ça a mal parti, parce que moi, j'ai commencé à faire une critique un peu baveuse, parce que j'étais tanné d'entendre tout le monde sur Internet être des experts de tout, là. Ça fait que c'est comme ça a mal sorti, tu sais. Puis je me suis excusé, puis j'ai fait, regarde, oublie ça, là, c'est genre too much, ça n'a pas rapport. Mais bref, à un moment donné, quand on a fini ça, ça n'a pas duré toute la soirée, là, tu sais, ça a duré un petit temps X, peu importe. Mais je m'en souviens pourquoi. De un, parce que je filais cheap, là, tu sais, j'avais fait un commentaire complètement zéro, alors que la fille avait raison de parler de ça. Son père, effectivement, connaissait ça. Mais d'un moment donné, quand on est reparti, puis on riait, puis bon, blablabla, il dit, bon alors, on dira ce qu'on veut, là, c'est le gars qui a le plus confiance en lui que je connais, tu sais, parce qu'il faisait référence au fait que j'étais capable de dire « Hey, c'est ça, oui, ça, non », puis après ça, m'excuser direct. Je fais une gaffe. Moi, j'ai pas d'orgueil, là. Je fais une gaffe, je m'excuse tout de suite. Pouf! Si j'ai pas fait d'erreur, ben je peux m'excuser pareil si j'ai blessé quelqu'un. Puis après, je vais m'expliquer, par contre. Je vais dire « Excuse-moi, je suis désolé, mais... » Fait que là, lui... Mais moi, sérieux, je sais que j'ai pas de manque de confiance, mais il reste que, tout à coup, c'est ces phrases-là qui font que tu fais « Hey, ça, c'est un point fort, comprenez-vous? » C'est que la première affaire qui améliore les autres, puis qui t'améliore au retour, c'est de faire des compliments réels, de souligner ce que vous trouvez qui est la force des gens. Parce que, je vous en parle souvent, dans une communication, il y a le sous-texte aussi. C'est-à-dire, il y a ce que vous dites précisément, puis il y a le sous-texte. Rappelez-vous, je vous disais, c'est bien bizarre du monde qui me demande mon avis sur leur réorientation de carrière. Pourquoi? Ben, c'est pas à moi de choisir ce que les gens perçoivent. Dieu merci, c'est mieux ça que de quoi de négatif, tu sais. Fait que c'est pour toutes sortes de raisons, j'ai été gérant d'artiste. À vrai dire, je sais même pas. J'ai pas exploré, j'ai juste constaté qu'il y avait une tendance, les gens voyaient que j'étais de bons conseils pour des trucs qui ont rapport avec le travail, puis la carrière, puis comment je devrais démarrer un projet, etc. Tu fais comme, OK, cool, oui, j'ai ça dans le sang, j'suis un fire starter, comme disait Morancy, tu sais, un gars de première vitesse, blablabla. Et pourquoi je dis quand vous faites le compliment, vous révélez les autres, puis ça vous revient? Parce que si vous êtes quelqu'un qui est complimenté, bien, on va vous en faire aussi. Parce que là, à ce moment-là, vous cassez l'espèce de petite gêne qu'il peut avoir de dire « Je devrais-tu dire ça? Ça va-tu me revenir? » Les gens calculent quand même ce qu'ils disent, tu sais, j'ai remarqué. Comme là, mettons, là, le matin, moi, j'envoie mes sujets assez... Bien, j'envoyais, là, ça va repartir en janvier, j'envoyais mes sujets à Sylvain pour la radio 93. Puis je disais, tu me diras lesquels que tu prends. Puis là, il ne me le demande plus. Puis ça me gosse parce que je veux qu'à quelque part, ça soit apprécié, tu comprends? Puis d'un autre côté, je veux que ça soit utile, puis que si tout à coup, ça donne que sur le coup, il n'en prend pas, puis pendant l'émission, ça